Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu si nombreux à l'invitation que nous avons faite de discuter avec vous la prise en charge des anémies d'origine allo-immune, et on parlera également des thrombopénies périnatales d'origine allo-immune en fin de journée. Il s'agit de la deuxième journée Yves Brossard. Impossible de rebaptiser cette journée. Vous savez combien la contribution d'Yves Brossard à cette discipline et à la prise en charge de ces femmes et de ces petits patients a été immense. Vous connaissez l'histoire de notre structure, qui depuis le centre d'hémobiologie périnatale de Saint-Antoine, qu'a dirigé pendant de nombreuses années Yves Brossard, a été à la demande de la DGS transformée en un centre national de référence, avec une structuration tout à fait originale, puisqu'elle allie à la fois l'expertise d'une unité fonctionnelle d'immunobiologie que dirige Agnès Mailloux à Saint-Antoine, et une unité fonctionnelle clinique que dirige Anne Cortet chez nous à Trousseau, et une structure qui va encore évoluer, puisque au COMEX hier soir du groupe hospitalier de notre GH, il a été validé la création d'une fédération pour le CNRHP, ce qui est pour nous l'assurance que ces deux entités qui ne peuvent pas travailler l'une sans l'autre, qui profitent de l'expertise des connaissances l'une de l'autre, vont pouvoir continuer à travailler comme elles le font main dans la main. Et puis, je voudrais, si vous me le permettez aussi, qu'on puisse dédier cette journée à Agnès Fouanneau, qui a longtemps travaillé dans le laboratoire du CNRHP biologique à Saint-Antoine et qui malheureusement nous a quittés en août dernier. Je vous propose, Michel, tu sais qu'en fait je déteste remercier les gens qui nous ont aidés à faire les journées parce que j'oublie tout le temps quelqu'un et que je fais souvent des impairs. Et Michel Vaubourdol clôturera la journée et fera ce rappel et adressera à nos supporters tous nos remerciements, parce que bien sûr, sans eux, il aurait été impossible de monter cette journée. Et puis je voudrais aussi remercier l'ensemble du personnel de la mairie de Paris, parce que c'est grâce à eux qu'on est accueillis ici aujourd'hui, et vous imaginez bien que cette salle est absolument prise d'assaut par rapport à toutes les manifestations qui ont lieu à Paris et qui nous permettent de vous accueillir dans ce cadre prestigieux. Et puis je vous propose que l'on commence les sessions scientifiques. J'appelle Véronique Houflin-Debarge, qui est responsable, qui dirige la maternité de l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille, à nous rejoindre puisqu'elle a accepté de modérer cette session, ainsi que Emmanuel Guinchard, qui est responsable de l'EFS à Lyon. Et puis Michel, faut que tu m'aides parce que je vois que c'est moi qui commence pour la première session qui est dédiée à la prise en charge des allo-immunisations anti-érythrocytaires sévères. Je vais peut-être y arriver tout seul.
Bonjour à tous. Donc on va laisser la parole au professeur Joannick, qu'on ne présente plus, que vous connaissez tous. Donc il va débuter cette session.
Merci beaucoup Michel. Je vais vous parler de la place que pourrait avoir un traitement par immunoglobuline polyvalente dans le cadre des allo-immunisations fœto-maternelles érythrocytaires sévères. Jean-Marc Biard ensuite nous traitera de la contribution possible des échanges plasmatiques, et puis si vous en êtes d'accord, on pourra discuter à l'issue de ces deux topos, puisqu'on verra tout à l'heure que certaines équipes proposent que ces deux approches soient combinées. Alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, les patientes éligibles, les cas éligibles, vont concerner des allo-immunisations materno-fœtales sévères, dans l'immense majorité des cas anti-D, parfois anti-KEL, et exceptionnellement, on doit en avoir un ou deux cas dans le centre, anti-RH4. Ce sont des patientes pour lesquelles la sévérité immunologique est connue dès le début de la grossesse, et puis très souvent, ces patientes ont une histoire reproductive compliquée et émaillée de pertes fœtales en lien avec la survenue d'une anémie fœtale sévère et précoce. Dans ce sous-groupe de patientes, notre crainte, bien sûr, quand on va avoir des dosages pondéraux très élevés dès la fin du premier trimestre, va être, dans le cadre du suivi conventionnel, comme toutes ces patientes, avec un monitorage du pic systolique de vélocité dans l'artère cérébrale moyenne qui est mis en place dès 16 semaines, ce que l'on redoute le plus, c'est de voir ces vitesses augmenter jusqu'à entrer dans la zone où il y a un fort risque d'anémie fœtale, c'est-à-dire nous contraignant à organiser une transfusion in utero précoce avant 20 ou 22 semaines. Vous savez que pour les centres experts, c'est-à-dire qui disposent d'opérateurs entraînés, le taux de perte fœtale associé à chaque transfusion in utero est de l'ordre de 1,3%, ce qui représente, si on le cumule pour une grossesse complète, avec en moyenne 3 transfusions, un taux de perte fœtale qui est de l'ordre de 3%, et malgré ce geste hautement invasif, le taux de survie est tout à fait excellent, toujours supérieur à 95%. Quand on en vient à considérer l'organisation d'une transfusion in utero avant 22 semaines, plus encore avant 20 semaines, on va être souvent limité dans notre possibilité à obtenir un abord chordonal qui soit fiable. Notre site de prédilection est bien sûr une ponction de la veine ombilicale au niveau de l'insertion placentaire. À ce terme-là, on parle d'une structure vasculaire qui fait moins de 2 mm. Alors, on pourra toujours essayer de contourner cette difficulté et utiliser pour des transfusions très précoces la voie intrapéritonéale, ou pour certains auteurs, même si ça paraît un peu gore, la voie intracardiaque. Mais vous voyez que ce sont vraiment des procédures de sauvetage qui nous permettent de gagner un petit peu de temps pour se retrouver dans les conditions qui sont celles que l'on utilise habituellement pour la réalisation de ces transfusions. Le taux de perte fœtale et le risque associé à ces procédures précoces est 4 fois supérieur, jusqu'à 10 à 20% de mortalité dans les suites de ces interventions fœtales, avec pour les meilleures séries un taux de survie pour les cas où la première transfusion a été réalisée avant 22 semaines, un taux de survie, vous voyez, qui tombe à 80%. Alors, comment faire pour essayer de réduire la morbimortalité pour ce groupe de femmes qui très souvent ont été antérieurement identifiées comme à risque d'alloimmunisation? La première chose qui me paraît très importante, c'est à l'issue d'une grossesse qui a été compliquée, a fortiori si elle s'est accompagnée d'une perte périnatale, l'information préconceptionnelle est absolument capitale. Pourquoi ? Parce que d'abord, on va pouvoir reprendre un peu le fil de l'histoire avec les patientes. On va aussi proposer un programme de monitorage de la décroissance des titres d'anticorps. Et puis, au vu de cette cinétique de décroissance, on va pouvoir établir un schéma plus raisonnable avec la patiente pour envisager une nouvelle grossesse. Et parfois, il faudra, alors on a souvent la chance d'avoir des femmes jeunes, en particulier pour celles qui sont issues de l'immigration, on pourra prendre ce temps, mais dans certains cas, il faudra convaincre les femmes qu'attendre 1 an, 2 ans va permettre de réduire un petit peu ce conflit immunitaire, et peut-être d'envisager une grossesse avec un devenir qui sera meilleur. Cette notion d'intervalle est très importante. Et puis, pour les situations d'hétérozygosie paternelle, il faudra aussi qu'on ait à l'esprit la possibilité de discuter d'un diagnostic préimplantatoire. Vous savez que sur le plan réglementaire, cette discussion impose un avis premier qui soit donné par un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Et ensuite, je crois que notre mission est aussi de faciliter l'accès pour certains couples à ce soin. Et vous voyez, pour le centre avec lequel nous travaillons, qui est celui de Clamart-Necker, il y a, dans les 2 dernières années, 3 couples qui ont été mis dans le circuit du DPI, Dequel est un grand D, je crois, et pour l'instant, 2 patientes pour lesquelles un DPI a pu être réalisé. Et je pense que ce chiffre pourrait être plus important. Alors, je ne suis pas en train de dire que le DPI va régler tous les problèmes, mais je crois que cette information doit être donnée au couple de la possibilité de son organisation. Et puis ensuite, une fois que la grossesse a débuté et que nos collègues biologistes vont nous informer qu'on va partir avec un niveau d'immunisation importante, avec des dosages pondéraux qui, dès le premier trimestre, vont être importants, on va discuter maintenant des stratégies qui vont nous permettre de tenter de limiter ce conflit immunitaire le terme est peut-être pas tout à fait adapté pour les puristes, mais enfin, c'est vraiment la stratégie qui va être la nôtre. Alors, deux options, les immunoglobulines polyvalentes, les échanges plasmatiques dont Jean-Marc vous parlera après moi, et puis on le verra aussi, on le discutera avec lui, je pense, des approches combinées. Cécile Tolly-Dour, elle a passé des heures avec moi pour essayer de m'upgrader en immunologie. Bon, j'ai fait quand même des progrès, je ne sais pas où est Cécile. Mais voilà un peu les modalités d'action supposées, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui demeurent dans le registre de la supposition. Il n'y a pas de démonstration formelle de ça, mais vous voyez que les gamma-globulines polyvalentes, dans le cadre de l'aluminisation érythrocytaire, vont avoir différentes cibles d'action. D'abord, elles vont permettre, par un phénomène de feedback négatif, de réduire la production d'anticorps maternels. Elles vont également participer à une réduction de la demi-vie de ces anticorps. Elles vont avoir un effet et elles vont diminuer le passage placentaire de ces anticorps. Et puis enfin, par divers mécanismes qui échappent à ma culture d'obstétricien, elles vont avoir pour effet de réduire la destruction des globules rouges en lien avec le système réticulo-endothélial. Cette indication d'immunoglobuline au CNRHP à trousseau est réservée aux formes sévères, avec un antécédent soit lors d'une grossesse précédente d'un recours précoce à une transfusion in utero avant 20-22 semaines, ou une perte fœtale, et puis parfois, vous allez le voir, mais on pourra le discuter, je crois que c'est le cas à peu près dans toutes les équipes, il y a aussi des indications qui vont être discutées un peu à titre compassionnel, et en particulier quand on aura une histoire de perte néonatale avec ou sans défaut de prise en charge, parfois il y aura une discussion autour de l'introduction d'immunoglobuline pour tenter de donner le plus de chances à ces femmes pour les grossesses suivantes. Le protocole que nous utilisons à Trousseau est le suivant. Nous utilisons le Clérig que commercialise le laboratoire LFB. Alors, je ne vous fais pas du tout de publicité parce qu'il se trouve que ce laboratoire qui avait participé à l'organisation de cette journée il y a 3 ans nous a fait faux bond cette année. Donc, vous voyez, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec le LFB. Il convient de commencer le traitement le plus rapidement possible, idéalement entre 11 et 12 semaines. Les doses qu'on utilise sont fortes, hein. Vous voyez, on utilise une dose d'un gramme par kilogramme sous la forme de cures qui sont hebdomadaires. La perfusion est extrêmement lente pour essayer de réduire au maximum les effets indésirables de cette cure. Vous voyez qu'on va augmenter progressivement le débit pendant les 30 premières minutes, la première heure, et ensuite augmenter progressivement le débit pour ne jamais dépasser 4 milligrammes kilogrammes par heure. Et en général, à Trousseau, dans l'immense majorité des cas, on ne dépasse pas le seuil de 3 milligrammes kilogrammes heure. Il faudra adapter la dose administrée à la maman en cas d'obésité. Vous voyez, pour toutes les femmes dont le BMI est supérieur à 30, on va adapter la dose pour tenter de réduire le risque d'insuffisance rénale qui est accru chez ces patientes. Ces cures d'immunoglobuline sont faites à Trousseau pour la première cure en hospitalisation complète, et puis dans l'immense majorité des cas ensuite, et tout ça sous le contrôle de Pauline Thomas, qui est la sage-femme coordinatrice du CNRHP clinique en hospitalisation de jour. Enfin, il y a un impact quand même dans la vie des femmes pour ces grossesses. Les effets indésirables liés à l'utilisation des immunoglobulines sont connus. Fréquemment céphalées, hyperthermie, frissons, tachycardie, hypotension. D'ailleurs, très souvent en préventif, on va administrer à l'instauration de la première cure des antalgiques pour prévenir les céphalées, qui sont les événements qui sont le plus rapportés par les femmes, mais possibilité de myalgie, lombalgie, nausées, vomissements qui sont fréquemment observés, en particulier pour les premières cures, en particulier pour les nausées, des réactions cutanées, rashes urticaires, et puis parfois plus inquiétantes, des épisodes de dyspnée ou d'oppression thoracique qui imposeront bien sûr d'arrêter l'injection. Et puis enfin, de manière tout à fait exceptionnelle, mais décrite dans la littérature, un risque d'insuffisance rénale aiguë, syndrome méningé aseptique et bien sûr de choc anaphylactique. J'ai fait un calcul du coût hebdomadaire de ce traitement. Si on additionne le coût du produit, si on additionne les frais de séjour liés à une HDJ, on a une moyenne de, vous voyez, de 6 000 euros par semaine, et c'est tout à fait cohérent avec ce qui est rapporté dans la littérature, puisque les Américains nous disent qu'ils évaluent le coût de ces cures à un coût de 6 à 8 000 dollars par semaine. Voici l'expérience que nous avons de l'utilisation du Clérig à Trousseau. C'est un protocole qui a été introduit à la fin de l'année 2012. On a repris avec une interne du service, Anaïs Dugas, avec l'aide de Cécile Tolly et de Pauline Thomas, les cas de patientes qui avaient reçu des immunoglobulines dans le cadre d'une alluminisation, essentiellement dans le cadre de l'alluminisation anti-grand D. Vous avez vu, hein, et c'est normal, on s'intéresse à un sous-groupe de patientes avec une immunisation sévère, et donc on en retrouve les critères immunobiologiques, et cette cure d'immunoglobuline va être discutée lorsque est survenu un élément de sévérité lors de la grossesse précédente, c'est-à-dire soit un recours précoce à une TIU avant 20 semaines, on a été assez strict sur cette, avant 22 semaines sur cette définition, ou une mort in utero ou une mort néonatale pour laquelle on a pu affirmer que le décès néonatal était en lien avec cette anémie. Le protocole de suivi clinico-biologique de ces patientes est tout à fait comparable à ce que nous faisons habituellement. Et puis, nous nous sommes concentrés, pour le discuter avec vous, sur l'impact que pouvait avoir ce traitement sur l'idée que l'on a de décaler le terme à la réalisation de la première transfusion. Depuis 2013, 21 patientes, ou 21 grossesses plus exactement, ont été concernées par ce traitement. J'ai exclu, parce que la discussion est un petit peu différente, deux grossesses qui concernaient des immunisations Kell et anti-PTC, pour finalement retenir 17 cas de patientes ayant reçu du Clérig dans le cadre d'une allo-immunisation anti-grand D. La première patiente, qui est la patiente dont le traitement a commencé fin 2012, début 2013, n'a pas été prise en compte parce que on tâtonnait un petit peu à l'époque, et pour cette patiente, le traitement a été interrompu au moment de la première transfusion qui a eu lieu à vers 18 semaines d'aménorrhée. Puis bien sûr, maintenant, on l'aurait poursuivi et on voulait quelque chose qui soit le plus homogène possible, parce que malheureusement, dans ces séries, mais on le discutera tout à l'heure, toutes ces séries sont assez difficiles à analyser parce qu'il y a beaucoup de biais et beaucoup de limitations à la comparabilité des cas. Un cas de mort fœtale in utero observé à 19 semaines sans cause retrouvée, en tout cas pas d'anasarque au moment de la perte fœtale. Une fausse couche à 13 semaines, donc bien sûr impossible de faire le lien entre ce contexte et cet événement. Une grossesse pour laquelle a été réalisée à la demande de la mère une interruption médicale de la grossesse pour un diagnostic prénatal de trisomie 21. Et puis un cas pour lequel, qui était un peu un cas limite d'ailleurs, pour l'indication au Clérig, d'une perte, d'une mort néonatale dans un contexte d'anasarque dans un hôpital extérieur au nôtre avec une décision d'extraction à 32 semaines. On peut dire peut-être un retard à l'allumage, un défaut de prise en charge pour cette grossesse et malheureusement un décès au bout de quelques heures de cet enfant pour lequel nous n'avons pas pu retrouver le taux d'hémoglobine à la naissance. Puis enfin, il y a une grossesse qui est en cours, donc on a des issues complètes pour 11 grossesses. Voici ces 11 grossesses. Alors, on peut très rapidement commenter ce tableau qu'a préparé Anaïs Dugas en disant que vous voyez que dans l'immense majorité des cas, il s'agit d'une indication qui a été portée. Excusez-moi. Qui a été porté devant un antécédent, merci Michel, de mortalité périnatale, c'est le cas dans la majorité des cas. Et puis, dans deux cas, l'indication a été portée devant la nécessité de réaliser une transfusion in utero précoce lors de la précédente grossesse. On est, vous voyez, dans une gamme de patients dont l'alluminisation est extrêmement sévère. On a une introduction du Clérig qui est fait majoritairement à 11-12 semaines et puis parfois à 13 semaines. Encore une fois, il faut essayer de tendre le plus possible vers une introduction précoce si on veut espérer une efficacité. Voici les termes auxquels ont été réalisés les transfusions in utero, c'est pas très surprenant, mais toutes ces femmes ont eu une indication de transfusion in utero pendant ces grossesses, de 1 à 7, avec sur ces 11 grossesses, 2 pertes fœtales dans les suites d'une transfusion, l'une à 19, l'autre à pratiquement 22 semaines, et puis pour les autres grossesses, une issue néonatale favorable, avec après une histoire néonatale qui est celle d'enfants nés dans un tel contexte, mais avec un devenir satisfaisant pour tous ces enfants. Voici la représentation de l'évolution du dosage pondéral pour ces 11 grossesses. Les croix jaunes correspondent à l'introduction de la tégéline. Alors, vous voyez que finalement, on a une réponse qui va être, en tout cas, dans la traduction qui est celle du dosage pondéral des anticorps, qui va être variable d'une femme à une autre. Dans certains cas, on va avoir une diminution très franche du dosage pondéral après l'introduction de la tégéline. Dans d'autres cas, on va avoir une absence d'ascension significative. Et puis dans d'autres cas, on verra malgré tout une progression du dosage pondéral. Et dans une étude précédente que Cécile Tolly avait réalisée sur 8 cas, elle avait bien démontré cette réponse variable et démontré également qu'une décroissance significative du dosage pondéral était plutôt associée à une bonne réponse de la patiente par rapport à ce traitement, avec un effet très net sur le terme à la réalisation de la première transfusion. Et puis maintenant, si on se focus sur le terme à la transfusion pour la grossesse suivante, vous voyez, en moyenne, on va gagner 2 semaines. J'ai envie de dire que cette moyenne, elle ne peut pas être discutée seule, ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'on peut dire, c'est que vous voyez que dans à peu près la moitié des cas, on ne va pas avoir beaucoup de différence dans le terme à la réalisation de la première transfusion, c'est ce groupe-là. Et puis, dans l'autre moitié, on va avoir un gain évident et c'est ça qui va donner cette moyenne d'une première TU qui est décalée d'environ 2 semaines. Ceci dit, pour nous, et vous savez comme moi, chez une même femme, organiser une transfusion à 19, 20, 21 semaines, les conditions en 1 à 2 semaines peuvent complètement changer et on peut passer d'une situation avec un abort extrêmement périlleux et un risque majeur lié à la transfusion à quelque chose qui paraît beaucoup plus accessible et abordable, en particulier pour les opératrices les plus entraînées du service. Chez nous, les docteurs qui pratiquent les transfusions en ont fait plus de 100. La littérature concernant le sujet est pas très riche. Elle est faite essentiellement de séries de cas. La série la plus importante en comporte 60 à 70. Et puis elles ont en commun un certain nombre de caractéristiques. D'abord, la majorité de ces publications, si ce n'est toutes, datent des années 90-95, c'est-à-dire avant l'introduction de la mesure des pics systoliques de vélocité. Vous savez que c'est ce qui a totalement bouleversé la prise en charge de ces grossesses, donc à l'aune des années 2000. Ce qui est frappant aussi dans ces papiers, c'est que l'introduction des immunoglobulines est relativement tardive, jusqu'à 20 semaines. Et puis enfin, et surtout, et je vous avoue qu'on a tenté de le faire avec Emeline Maisonneuve, il y a beaucoup de ces séries qui sont des séries cas contrôle, où, et c'est intuitivement assez logique, hein, on a cherché à comparer, à faire en sorte que pour une même patiente, la grossesse sous immunoglobuline soit comparée aux grossesses précédentes, mais finalement cette approche méthodologique, elle introduit un certain nombre de biais méthodologiques qui rendent très très difficile l'analyse des résultats. Conclusion-là a été pointée par cette série de la Cochrane publiée en 2013, mais malgré tout, sur la dizaine, 10 ou 11 papiers qui ont été pris en compte pour cette analyse, il a été conclu à un effet ou une efficacité pour un certain nombre de patientes. Et puis, depuis ce temps, plus grand-chose, et puis finalement, de manière plus ou moins inconsciente, dans la communauté des docteurs qui prennent en charge ces patientes, il a été retenu que les immunoglobulines, ça peut marcher, ça peut dans à peu près la moitié des cas apporter un gain et permettre de retarder l'âge à la première transfusion, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Et puis finalement, on considère maintenant que cet effet, il est tellement entre guillemets évident que ça rend difficile des approches avec la mise en place d'études, notamment randomisées, qui apporteraient bien sûr un plus haut niveau de preuve scientifique. Et je suis tout à fait prêt à en discuter avec vous, mais je trouve très étonnant que, au vu de cette littérature et de des biais méthodologiques de ces études qui, encore une fois, sont très anciennes, on considère que cet élément ne peut pas être remis en cause par des études avec une structuration et un design un peu plus robuste. Dans tous les cas, compte tenu du coût, compte tenu des effets indésirables potentiels, je crois que la discussion de l'introduction doit se faire au cas par cas. Je crois qu'il faut aussi qu'on essaie de se réfréner le plus possible d'indications aussi compassionnelles. Il faut rester très strict dans les indications et on ne devrait prendre en compte, je pense, que des cas de mort fœtale in utero en milieu de gestation et des immunisations sévères. Je crois, je viens d'en parler, que une approche multicentrique serait vraiment d'une grande aide. Je crois qu'il y a une place pour une étude randomisée sur un tel sujet. Et puis, après que Jean-Marc Biard nous ait présenté la contribution ou l'apport potentiel des échanges plasmatiques, on pourra discuter, si vous le souhaitez, de stratégies combinées qui associent des échanges plasmatiques qui peuvent être notamment réalisés dans les premières semaines du deuxième trimestre avec un relais par les immunoglobulines. Et puis, je vous encourage à lire, vous savez, le grand dynamisme du groupe de l'EDEN sur le sujet, mais je vous encourage à lire cette revue de la littérature récente faite par Caroline Zwiers, qui est vraiment un concentré de tout ce que vous devez savoir autour de l'alloimmunisation materno-fœtale érythrocytaire en période périnatale.